Avez-vous soif? C'est une bonne chose parce que le Seigneur va nous rassasier. Et ce matin, on va prendre nos Bibles dans nos mains. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, on vous a donné une feuille à la porte. Hein? C'est marqué « Marcher dans la plénitude de Dieu » ce matin. C'est le titre de notre message. Je vais vous inviter à prendre cela en vos mains. Et sur cette feuille et dans vos Bibles, tous les versets que nous allons lire et étudier sont écrits. Et on va faire cette déclaration de la foi. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Donc, marcher dans la plénitude de Dieu. Ce matin, on va faire un deuxième message sur ce sujet. On va aller en Éphésiens chapitre 3 pour prendre notre texte et pour lire les choses encore inspirées de Dieu qui sont destinées à nous changer et nous transformer. Ce matin, je veux vraiment que vous soyez attentifs à la parole parce que je crois de tout mon cœur que le message est destiné à vous propulser de l'avant, vous aider à aller à un autre niveau dans votre vie chrétienne, arriver à une place où vous serez plus efficace, plus heureux, plus fructueux dans la vie. Est-ce que ça vous intéresse? Vous savez que nous sommes ici sur la terre pour une raison. Et la raison que nous sommes ici sur la terre, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, accomplir le plan de Dieu, pour connaître Dieu et le faire connaître aux autres. Mais ici, en Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, nous trouvons une prière inspiré de l'Esprit Saint, que l'apôtre Paul a prié pour l'Église à Éphèse. Et c'est une prière inspirée de Dieu qui ne s'applique pas juste aux Éphésiens, mais ça s'applique à nous, les Drummondvillois, les Drummondvilloises aussi, n'est-ce pas? Il a dit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, » Combien de vous croyez que Dieu est riche en gloire? Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Est-ce que ça vous tente d'être puissamment fortifié par l'esprit de Dieu? Est-ce que ça vous est arrivé des fois d'avoir le sentiment d'être faible et de ne pas être à la hauteur d'une tâche devant vous? Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Il y a trois d'entre vous qui êtes honnêtes. Je pense qu'on va prier pour les menteurs tantôt, non? Moi, je sais que ça m'arrive des fois, en moi-même, de ressentir que, « Hey, Seigneur, j'ai pas le sentiment d'être capable, mais je sais que je suis capable. » Amen? Donc, mais il dit, c'est d'être puissamment fortifié par son esprit ou dans l'homme intérieur. Comment on dit dans l'homme intérieur? Mesdames, vous pouvez dire dans la femme intérieure aussi, mais dans le fond, hein, dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, nous sommes tous un Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux dans le Seigneur, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de culture, c'est pas une question de race, c'est pas une question d'éducation, hein? C'est une question d'être un Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le Seigneur, il veut nous fortifier puissamment par son esprit dans l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. N'est-ce pas merveilleux, quel mystère glorieux de savoir que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qu'il peut habiter dans notre cœur. Et quand on dit habiter, on n'a pas dit visiter, mais on a dit habiter. C'est-à-dire que quand Jésus devient le Maître est le Seigneur de notre vie qui déménage, on pourrait dire. Amen? Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur déménage, moi je viens de déménager il n'y a pas longtemps. On a resté 11 ans dans la même place. Et quand nous avons déménagé, il y a quelques-uns de vous avez aidé avec notre déménagement. On a eu du stock à déménager. On avait besoin de prendre tout notre stock, de le mettre dans un camion et les remorques, et de le transporter et de mettre tout le stock dans la nouvelle maison. Mais savez-vous quoi? Que quand vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur, comme votre Maître, que le Seigneur Jésus a déménagé. Et quand il a déménagé, il a amené tous ses biens avec lui. Tout son stock. Et où est-ce qu'il a mis tout son stock? Dans sa nouvelle maison. N'est-ce pas? C'est quoi la maison de Dieu? C'est qui la maison de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, c'est sa maison. Et Jésus, quand il est arrivé avec son camion, mais c'est, laisse-moi vous dire, ça prenait plus qu'un camion de U-Haul ou de Hertz ou de budget. Ça prenait plus que deux déménageurs pour transporter tout son stock. Ça prenait la puissance de l'Esprit Saint. N'est-ce pas merveilleux de penser que vous êtes une nouvelle création de Jésus? Et que Christ, maintenant, Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et il est arrivé avec tout son stock. Mais la plupart de vous, vous ne savez même pas tout ce que Dieu a fait pour vous et tout ce qu'il a mis dans votre cœur. Vous ignorez. Mais c'est pourquoi on est là ce matin, n'est-ce pas? Et je sais qu'il n'y a personne ici qui a tout compris. Moi, j'ai commencé à comprendre et avoir une révélation. Vous avez commencé à comprendre, mais on a beaucoup de choses à voir dans l'Esprit et par l'Esprit. Mais on va continuer ici, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Voulez-vous être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Ça, c'est pas une promesse pour le futur. C'est pas une promesse pour le ciel. C'est une chose que Dieu veut pour nous aujourd'hui, ici, sur la terre. Dieu veut qu'on soit remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ici, sur la terre. On sait qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas expérimenter dans notre corps physique. Notre corps physique ne sera pas glorifié avant d'être au ciel. Vous êtes d'accord? Mais, on sait que ici sur la terre, dans notre âme intérieure, dans notre cœur, dans notre esprit, nous sommes les nouvelles créations. Et Christ habite dans notre cœur par la foi. Et il a amené tout son stock avec lui. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit que Dieu est un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même imaginer. Et je suis là pour vous dire ce matin que quand Jésus a déménagé, quand il a fait sa résidence dans votre cœur, que l'œuvre qu'il a fait dans votre cœur est au-delà de tout ce que vous pourrez imaginer. Et c'est pourquoi on a besoin de prier et de demander un esprit de sagesse et de révélation. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Parce qu'une fois que vous voyez qu'est-ce que Jésus a fait, une fois que vous êtes conscient de tout le stock qu'il a mis à l'intérieur de votre cœur, vous n'aurez jamais plus une journée de dépression. Vous n'aurez jamais plus une journée où vous êtes découragé ou déçu. Vous n'allez jamais plus penser que vous êtes en bon à rien, en ver de terre. Vous savez que même des chrétiens, il y a trop de chrétiens, ils vont dire que, tu sais, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Ça, c'est pas vrai. Vous étiez des pécheurs, nous étions tous morts dans nos offenses, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes les nouvelles créations de Jésus. Nous étions des pécheurs, nous avons été sauvés par la grâce, et parce que je suis sauvé, aujourd'hui je suis la justice de Dieu. Dieu habite en moi. Jésus-Christ est dans mon cœur. Regardons Colossiens chapitre 2, verset 6. C'est dans vos notes. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, pour commencer ce matin, il y a deux vérités qu'il faut vraiment souligner et qu'il faut saisir dans notre cœur. Premièrement, dans vos notes, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Toute la plénitude de Dieu. Jésus est Dieu dans la chair, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez une chose. Que quand Jésus est venu sur la terre, il s'est dépouillé lui-même de sa majesté et de sa gloire. Il a vécu sur la terre comme un homme. Il était revêtu de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit est venu sur lui, il était oint de l'Esprit Saint, etc. Mais juste avant de mourir sur la croix, est-ce que vous vous rappelez de la prière que Jésus a faite quand il parlait avec son Père, en Jean du chapitre 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi au commencement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus-Christ maintenant, parce qu'on sait que Dieu est un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu, dans sa sagesse, a décidé à faire? C'était de mettre en Jésus toute sa plénitude corporellement. Parce que, en réalité, Dieu le Fils est devenu chair et Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen. 100% Dieu et 100% homme. Donc, il est venu, il s'est dépouillé de lui-même, de sa gloire, sa majesté, mais quand il fut crucifié, enterré et ressuscité, il fut aussi glorifié. Et maintenant, Jésus-Christ, collectivement, corporellement, en lui, dans sa personne, habite toute la plénitude de la divinité. Et qu'est-ce qui est merveilleux quand on pense à cela, c'est que toute la puissance, la plénitude de Dieu habite maintenant dans un homme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est encore un homme aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, homme. Dieu s'est lié avec la race humaine. Dieu est devenu un homme. Et je sais que là, maintenant, je vois dans vos yeux, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? C'est pas trop religieux qu'est-ce qu'il dit. Non, c'est la vérité. Dieu est Dieu. Jésus est Dieu 100%. Mais Jésus-Christ est encore homme. En fait, on a juste allé en Apocalypse. Il fait référence à lui-même comme étant le rejeton de David. Dieu a donné une promesse à David qu'un membre de sa postérité régnerait pour éternité sur son trône. Et là, aujourd'hui même, Jésus-Christ, qui est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, le rejeton de David. David, c'était son arrière-arrière-arrière-grand-papa. Il est assis sur le trône. Et toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ corporellement. Toute la sagesse de Dieu, toute l'omniscience de Dieu, toute l'omnipotence de Dieu. Toutes les qualités, les caractéristiques de Dieu habitent en Jésus-Christ. Toute autorité lui appartient. En lui, toute chose subsiste. Et c'est lui qui a créé toute chose. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est Seigneur? Et qu'il n'y a pas une personne plus puissante dans l'univers que Jésus-Christ? Regardons ce verset en Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. On ne voit pas Dieu, l'Esprit, il est invisible, mais Jésus est l'image de Dieu invisible, n'est-ce pas? Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Comment on dit? Par lui et pour lui. Il, Jésus, est avant toute chose. Comment on dit? Jésus est avant toute chose. Amen. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est le premier. Jésus sera toujours le premier. Il sera toujours la tête. Vous ne serez jamais la tête. Jésus sera toujours la tête. Jésus aura toujours une place plus élevée que nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est la tête. Mais regarde bien, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude habite en Jésus aujourd'hui même. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est la première vérité qu'on veut souligner, mais voici la deuxième qui est aussi importante, c'est que nous avons tout pleinement en lui. Regarde bien, si Jésus est la tête, nous sommes le corps. Nous ne serons jamais au-dessus de la tête, mais nous sommes attachés à la tête et nous sommes un avec la tête. Quand on voit Marcel ou Céline, on ne parle pas de sa tête et son corps comme étant deux choses différentes dans le fond. On voit l'ensemble, on voit une personne, n'est-ce pas? Et laisse-moi vous dire que Dieu le Père, il nous voit en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus. Quand Dieu me voit, il me voit en lui. Regarde votre voisin et dit, quand Dieu me voit, il me voit en Jésus. Pourquoi? Ça, c'est si vous êtes né de nouveau. Si vous n'avez pas accepté Jésus, si vous n'avez pas reçu le don gratuit de la vie éternelle, Dieu ne vous voit pas en Jésus. Il vous voit en Adam, dans le péché, séparé de Dieu. Mais si vous êtes chrétien, pour vrai ce matin, Dieu vous voit en Jésus-Christ. Et si Dieu vous voit en Jésus-Christ, on va voir que vous avez besoin de vous voir en Jésus-Christ aussi. Il est la tête, mais nous sommes le corps. Et trop de chrétiens ont cette impression que Dieu est là et nous sommes des vers de terre avec une grande séparation entre nous et lui. C'est pas vrai. Toute chose habite. La plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ, mais nous avons tout pleinement en lui. Éphésiens 1, 22, dans vos notes. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est qui l'Église? C'est nous. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Toute chose, toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Mais Jésus est la tête, mais nous sommes son corps, c'est-à-dire que toute la plénitude de Dieu habite en nous. Car quand il a déménagé, quand il a fait sa résidence dans notre cœur, il est venu avec son stock. Et en réalité, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut remplir la terre avec la connaissance de Dieu, avec la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'il va le faire? Parce que la tête de l'Église est au ciel aujourd'hui, mais le corps de l'Église est ici sur la terre. Et l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc Dieu veut remplir toute la terre avec sa présence. Comment est-ce qu'il va le faire? À travers nous, qui sommes unis avec lui. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une expression, ce n'est pas juste une théorie, c'est une réalité. Dieu habite en nous. Mais la plupart des chrétiens vont cheminer toute leur vie chrétienne avec cette attitude qu'ils sont des vers de terre. Et ils vont lutter avec le péché, ils vont lutter avec toutes sortes d'affaires dans leur vie, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà reçu toutes choses pleinement en Jésus-Christ. Mais que ces choses sont cachées dans le cœur, et que ces choses ont besoin d'être découvertes. Ces choses ont besoin d'avoir libre cours pour pouvoir se manifester dans notre vie. Jean 1, 16 dit ceci, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Nous avons tous reçu de sa plénitude. Tout le monde dit, « J'ai reçu de sa plénitude. » Regardons Romains 8, 32. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Combien de choses? Si Dieu nous a vraiment donné toutes choses avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous manque? Rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on le croit ou non? Il faut que vous saisissiez cela. On ne parle pas d'autres personnes ce matin, on parle de vous. Si vous êtes chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, on va vous donner une occasion de devenir chrétien avant de quitter ce matin. 2 Pierre, chapitre 1, regardons ceci. Comme sa divine puissance nous a donné. C'est quel temps? Est-ce qu'on a des professeurs de français ce matin? C'est passé. C'est pas futur. C'est même pas présent, c'est passé. Comme sa divine puissance nous a donné, combien? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de quoi? La nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous savez qu'on peut être des participants de la nature divine. Wow! On n'est pas les hommes et les femmes naturels ou normales. On n'est pas normal. Regardez votre voisin et dites, vous n'êtes pas normal. Et là, vous dévoilez ça, je savais depuis longtemps, hein? Mais ce que vous ne saviez pas, peut-être, c'est que vous n'êtes pas normal dans le sens spirituel non plus. Votre cœur de pierre a été remplacé avec un cœur de chair. Votre nature pécheresse a été remplacée lors de la nouvelle naissance avec une nature divine. Mais le problème, c'est que c'est votre cœur, votre âme intérieure qui a été transformé, changé instantanément. Mais vous, vous vivez toujours dans un corps physique qui n'est pas encore transformé. Vous êtes d'accord? Et vous avez aussi une âme, c'est-à-dire votre volonté, vos pensées, vos émotions, qui n'ont pas encore été transformées, mais qui ont besoin d'être renouvelées avec la parole de Dieu. Vous êtes déjà changé dans votre cœur. Mais aussi longtemps que votre tête n'est pas au courant, ça ne donne pas grand-chose. Amen? Moi, je peux prendre votre auto ce matin, je peux aller au garage et faire un vidange d'huile et changer votre huile, changer vos filtres et tout cela. Hein, tout le monde dit, ah oui, voici mes clés. Je peux changer toutes les choses dans ton auto et remettre l'auto à sa place sans vous dire un mot. Et dans votre tête, vous pouvez penser, hey, il faut que je change mon huile. Il faut que ça, oh, ça fait longtemps, ça n'a pas été changé, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Non, vous n'avez pas besoin de le changer, je l'ai déjà changé. Et c'est la même chose pour vous dans votre vie spirituelle. Il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des changements qu'il a effectués. Il y a des dépôts qu'il a fait. Il y a des biens spirituels qu'il a déposés dans votre cœur. Quand il a déménagé, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il avait dans ses camions. Il y a toutes sortes de stocks dans votre maison spirituelle que vous ignorez. Et ça se peut que vous allez dire, « Oh, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. » Mais la Bible dit, par sa divine puissance, il vous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez besoin de découvrir qu'est-ce qu'il vous a déjà donné. Et en découvrant cela, vous allez voir que vous avez tout pleinement en lui. Sur la deuxième page de vos notes, il y a un verset clé qu'on va lire ce matin. Et on va voir l'importance de reconnaître toute bonne chose en Jésus-Christ. Philémon 1:6. Et moi, dans vos notes, j'ai mis cela dans la parole vivante. Je vais le lire premièrement dans le second. Pour vous, parce que c'est un verset clé qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de saisir. Philémon, c'est pas un steak, c'est pas le filet mignon, c'est Philémon. Mais quand même, c'est de la bonne nourriture, c'est un steak spirituel. Hein? Il dit ceci, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. » Combien de vous voulez que votre foi soit efficace? Soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous, toute espèce de bien. Mais regardons ceci dans la parole vivante. C'est intéressant. Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi. Moi, je veux que ma foi soit efficace. Vous voulez que votre foi soit efficace aussi. Qu'elle porte des fruits. Est-ce que vous voulez que votre foi porte des fruits aussi? En t'inspirant à des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. Comment est-ce que ça peut être le cas? Que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ. Et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher un avec lui. On va le lire encore. Que tu puisses reconnaître, tout le monde dit reconnaître, et apprécier, on va dire apprécier. Amen. De mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Jésus a pris, a déménagé, on peut dire, quand il a commencé à habiter dans votre cœur, il a amené avec lui toutes bonnes choses. Mais nous avons besoin de reconnaître et apprécier de mieux en mieux toutes ces bonnes choses que Dieu a déposées dans notre cœur. Et si on ne reconnaît pas ces choses, si on n'apprécie pas de mieux en mieux ces choses, notre foi va être inefficace. Notre foi ne va pas apporter du fruit. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est d'être efficace et porter des fruits, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous voyez que la clé, c'est de reconnaître toutes bonnes choses qui sont en Jésus-Christ, qui sont en moi? N'oublions pas que toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Il est la tête. Mais nous avons tout pleinement en lui parce que nous sommes le corps de Christ, l'Église de Dieu, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. On ne peut pas séparer la tête avec le corps. La tête et le corps font un. Nous sommes une seule plante avec le Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de dire que je suis Dieu, mais je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai la nature de Dieu. J'ai le caractère de Dieu. Et quand le diable me voit, il me voit en Jésus. C'est pourquoi il a peur de moi. Quand je suis en train de reconnaître et d'apprécier de mieux en mieux toute bonne chose en Christ qui est en moi. Mais quand je suis dans l'ignorance, quand je ne marche pas dans la lumière comme il est dans la lumière, il n'a pas peur de moi parce qu'il sait, ah, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore compris tout ce qui est en lui. Donc là, on peut le déranger, il ne va pas être capable de se défendre. Mais un chrétien qui sait qui il est, qui sait qu'est-ce qu'il a, et qui sait qu'est-ce qu'il peut faire en Jésus-Christ, est une véritable menace pour le royaume des ténèbres. Éphésiens 1:3 dit ceci, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Quel sens? Passé. Tout le monde dit, « Dieu m'a déjà béni. » De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes. Tout le monde dit toutes sortes. 1 Corinthiens 1, 3, 30 dit ceci par exemple. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Je suis en Jésus. Amen. Vous êtes en Jésus, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Qu'est-ce que vous avez en vous? Quelles sont toutes ces bénédictions spirituelles? Il y en a tellement qu'on pourrait passer une année au complet juste en parlant de cela. Et on n'épuiserait pas tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Mais appréciez tout ce que Dieu a fait en eux. Ils vont vivre dans la misère. Ils ne vont pas accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Ils vont manquer le meilleur que Dieu a planifié pour eux. Regardons bien. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Savez-vous que Jésus, en lui, toute la sagesse de l'univers, habite en lui corporellement? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus manque de sagesse? Est-ce que Jésus habite en vous? OK. Avez-vous saisi, là? C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement, sans reproche. Et c'est pourquoi il faut croire. C'est facile de croire que Dieu peut nous donner la sagesse, hein, et que la sagesse peut atteindre notre intelligence parce que la sagesse est déjà dans notre cœur. Donc la sagesse, quand Dieu va vous donner la sagesse, ça va venir de votre esprit, de votre cœur, parce que la sagesse se trouve dans votre cœur maintenant, parce que Jésus se trouve dans votre cœur, et en lui habite toute la sagesse corporellement. Amen? Vous pouvez penser comme Dieu pense. Hein? On peut dire, en fait, ça c'est la première chose, numéro un, qu'il faut qu'on fasse. Numéro un, dans vos notes, commencez à penser comme Dieu pense. Vous dites, ah, mais moi je ne peux pas penser comme Dieu, il est Dieu et je suis un homme. Oui, mais vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu et Dieu habite en vous. Et en fait, Ésaïe 50 nous dit qu'il faut que, hein, abandonner nos pensées. Car les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Il faut abandonner nos pensées, il faut abandonner nos voies. Quand Dieu nous dit de faire cela, ce n'est pas parce qu'il veut qu'on arrête de penser, hein? Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on devient chrétien, on arrête de penser. Non. On n'arrête pas de penser, mais on arrête de penser comme on pensait autrefois. Et on commence à penser comme Dieu pense aujourd'hui. Ses pensées sont au-dessus des pensées de ce monde. Et mes pensées doivent être au-dessus des pensées de ce monde. C'est pourquoi Romains 12, 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voulez-vous savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour votre vie? Parce que sa volonté est bonne, sa volonté est agréable et sa volonté est parfaite. Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Pour vivre cela, il faut renouveler votre intelligence avec la parole de Dieu et commencer à penser comme Dieu pense. En Corinthiens 2, 16 dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En nous, nous avons la pensée de Christ. » Comment dit « j'ai la pensée de Christ » Sa pensée se trouve ici. Dans sa parole. Et plus on médite la parole, voici qu'est-ce qui va arriver. Plus on lit la parole, on médite la parole, on déclare la parole, plus notre tête va s'accorder avec notre cœur qui est déjà né de nouveau et qui contient déjà la présence de Jésus-Christ, car Christ habite dans notre cœur par la foi. N'est-ce pas? Et quand mon esprit et ma tête sont en accord, laissez-moi vous dire que la vie est transformée. Vous savez, dans ce monde, on est programmé à penser d'une certaine façon. Quelqu'un vous fait tort? Qu'est-ce qu'on fait? La pensée naturelle? On fait tort. Ou on sait que quelqu'un va nous faire mal? Je vais lui faire mal avant qu'il me fait mal. N'est-ce pas? Mais la pensée de Dieu, c'est différent. La pensée de Dieu, c'est... Retournez pas le mal pour le mal, mais faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est une pensée divine. Ça, c'est une pensée qui est plus élevée que la pensée de cette planète, n'est-ce pas? La pensée de ce monde dit, tu veux réussir dans la vie? Travaillez fort, ramassez des choses et gardez tout pour vous-même. Ramasser, ramasser, garder, garder, garder. La pensée de Dieu, c'est, vous voulez avoir plus? Donner, 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 donner. Et donner encore. Et plus vous donnez, plus vous allez recevoir. C'est pas normal. Et regardez votre voisin encore et dites, vous n'êtes pas normal. C'est pas normal. Donc ça, c'est la première chose. Si nous allons reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ, il faut penser comme Dieu pense. C'est-à-dire qu'il faut renouveler notre intelligence pour savoir quelles sont ces bénédictions qui sont en nous. Deuxième chose, voyez ce que Dieu voit. Numéro un, pensez comme Dieu pense. Deuxièmement, voyez ce que Dieu voit. Quand Dieu vous voit, quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? J'ose dire, je vais oser dire que ce matin, que si on ferait un sondage, qu'est-ce que vous voyez quand vous vous voyez dans le miroir ou juste quand vous pensez à vous-même, quelle est votre image de vous-même? On parle souvent de l'image de soi-même, n'est-ce pas? Des personnes qui ont des basses estimes de soi. Et c'est rampant dans l'Église aussi. Et moi, je vais vous dire que mon expérience dans cette province, c'est que les gens ici, dans cette province, ont énormément un problème avec une basse estime de soi. Souvent, ça se manifeste dans d'autres façons. On ne dirait jamais que c'est un homme et une femme qui manquent d'estime de lui-même. Parce que souvent, on veut mettre un front, une façade, une masque, et on veut faire croire à tout le monde qu'on est vraiment, vraiment quelque chose, et qu'on est fier de soi-même, et on est confiant, mais dans le fond de notre cœur, on a des doutes et de l'insécurité. N'est-ce pas vrai? Moi, j'ai vécu cela. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vécu cela? Mais c'est pourquoi on a besoin d'échanger la vision et l'image que nous avons de nous-mêmes et la remplacer avec la vision et l'image que Dieu a de nous-mêmes. C'est quelque chose. Il y a une histoire en Nombre 23 et on va le lire. Vous vous rappelez? Une fois, il y avait un ennemi d'Israël qui voulait détruire les Israélites. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un gars pour venir prophétiser contre la nation d'Israël. Vous vous rappelez de cette histoire? Hein? C'est l'histoire de Balaam. En Nombre 23, 19, on voit que le problème, c'est qu'à chaque fois que l'homme est venu pour prononcer une malédiction sur le peuple de Dieu, il a fini par bénir le peuple de Dieu. Et le roi était fâché, il a dit, « Ah, donc on va aller à notre place et on va avoir une autre vue du peuple. » Parce que le peuple de Dieu était assemblé dans un lieu, donc ils allaient sur une montagne, et le roi voulait que cet homme maudisse le peuple de Dieu. Et il a fini par bénir le peuple de Dieu. « Ah, on va aller, mais maintenant, voilà, il y a une autre vue. » Donc maintenant, maudit le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni le peuple. Donc ils ont changé de place encore. Il a béni le peuple. Il a changé de place encore. Il a béni le peuple de Dieu. Le gars était fâché, hein? Parce que à chaque place où ils allaient, pour avoir une autre vue, pour avoir une autre vision du peuple de Dieu, au lieu de maudire, il a béni. Il y a un principe spirituel là-dedans. Regardons bien. Dieu n'est pas homme pour mentir. Est-ce que ça, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Non. Et n'accomplit-il ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Quelques traductions disent le cri du roi. Et laisse-moi vous dire, je vais vous expliquer quelque chose, parce qu'il y a un principe important à saisir. Quand Dieu voyait son peuple dans l'Ancien Testament, la Bible dit, comme il a dit, il ne constatait pas. Regarde ce langage. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Est-ce qu'Israël était parfait? Est-ce qu'ils ont péché? Assez régulièrement, n'est-ce pas? Mais Dieu avait une alliance avec eux. Et Dieu a pris une décision de regarder au-dessus de ses péchés, de ne pas constater ces choses, et de déclarer une bénédiction quand même. Et si Dieu a fait ça avec son peuple de l'ancienne alliance, les gens qui n'étaient même pas nés de nouveau, Jésus-Christ n'habitait pas dans le cœur des Israélites. Amen? Ils avaient une ancienne alliance. Nous avons une meilleure alliance qui se base sur les meilleures promesses. Nous ne sommes pas juste les serviteurs de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Dieu n'est pas juste pour nous et avec nous, mais Dieu est en nous. Donc si Dieu, quand il voyait, quand il regardait Israël, il ne constatait pas du péché. Il ne voyait pas le péché. Il ne voyait pas toutes les choses méchantes. Il bénissait quand même. À combien plus fort raison quand Dieu nous regarde et il nous voit en Jésus-Christ. Il ne voit pas le péché. Il ne voit pas les mauvaises choses. Il voit Jésus en nous. Amen? Est-ce que je suis en train de dire qu'on peut juste pécher, faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, pécher volontairement? Non. Je ne suis pas en train de dire cela, hein? Mettez pas les paroles dans ma bouche. Je ne suis pas en train de dire que la sainteté, la consécration à Dieu, ce n'est pas une chose importante. Oui, c'est important. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart de nous, au lieu d'avoir une image de soi-même qui est juste, on pense qu'on est juste les pécheurs sauvés par la grâce. Et si je peux toffer quelques semaines, quelques mois, quelques années de plus, peut-être Jésus va venir m'enlever et finalement je vais avoir la victoire. Mais Dieu dit non, je te vois en Jésus, je te vois béni et je te bénis de tous les côtés. Amen. Il nous a déjà bénis. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme un pécheur ou est-ce que vous vous voyez comme la justice de Dieu? Parce que trop de chrétiens, ils ne croient pas que leurs prières vont être efficaces. Pourquoi? Je ne suis pas digne de prier. Je ne peux pas recevoir la guérison. Je ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Dieu dit que vous êtes digne en Jésus. Dieu dit que vous êtes la justice de Dieu en lui. Amen? Voyez ce que Dieu voit. Numéro 3, dites ce que Dieu dit. Il faut dire la même chose que Dieu dit. Romains 4, 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Là, on parle de comment reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ. Christ a déménagé. Il demeure dans votre cœur. Il habite dans votre cœur. Il est arrivé avec tout son stock. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir reconnaître et apprécier de plus en plus et de mieux en mieux toutes les bénédictions qui nous appartiennent? Il faut penser comme Dieu pense. Il faut voir ce que Dieu voit, mais il faut dire la même chose que Dieu dit. Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant avec la bouche. Amen. Croyant du cœur, confessant avec la bouche, les deux vont de pair. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et si vous êtes un chrétien qui dit continuellement des mauvaises choses à propos de vous-même, si vous dites toujours, ah ben oh, moi je ne suis pas trop intelligent, ou je suis nul, ou ceci ou cela, combien de chrétiens que j'ai vus hein, qui ont la mauvaise caractère, qui sont secs et bêtes avec tout le monde, et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est, oh mais tu sais, je suis fait de même. Combien de vous avez entendu cela, hein? Mais je suis fait de même, c'est comme ça que je suis, si tu ne l'aimes pas, tant pis. Quel mensonge pour un chrétien, un enfant de Dieu, de dire je suis fait de même. Qui vous a fait? Vous êtes une nouvelle création. C'est Dieu qui vous a fait. Vous êtes créé à son image, à sa ressemblance. Dieu ne vous a pas fait de même. Dieu vous a fait parfaitement à l'image de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de dire « je suis fait de même », il faut commencer à dire la vérité. Laisse-moi expliquer une chose. Vous allez peut-être dire « mais ça ne serait pas vrai hein? ». Le fait, c'est que je suis bête, je suis prompt, je suis sec avec tout le monde. Ou le fait, c'est que j'ai un problème avec telle chose. Ça, c'est le fait. on ne va pas nier les faits. On sait tous que c'est vrai, hein? Que c'est un fait. Regarde votre voisin et dit, on sait tous que c'est un fait. Non. Mais laisse-moi vous dire que les faits ne peuvent jamais changer la vérité. Hein? On va le dire ensemble. Les faits ne peuvent jamais changer la vérité. Donc, le fait peut-être, c'est que vous ressentez dans votre cœur, vous avez les sentiments de culpabilité. Peut-être vous avez les sentiments d'être indigne. Peut-être le fait, c'est que votre image de vous-même est vraiment, vraiment à terre. Ça, c'est un fait. Mais les faits ne changent pas la vérité qu'en Jésus-Christ, vous êtes son enfant. Vous êtes une nouvelle création. Que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne change pas la vérité qu'il vous a déjà donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Et que vous êtes maintenant participants à la nature divine. N'est-ce pas? Les faits ne changent pas la vérité, mais voici la bonne nouvelle. La vérité peut changer les faits. Et plus vous confessez la vérité, plus vous parlez selon la vérité, plus vous allez voir les faits changer, transformer dans votre vie. Il y a une puissance dans votre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Ça marche pour la guérison divine. La vérité, c'est que par les mains précieuses de Jésus, nous avons été guéris. Le fait, peut-être, c'est que vous avez certaines maladies qui rongent votre corps. N'est-ce pas? Et on ne va pas nier le fait, on ne va pas dire, oh, la maladie n'existe pas. Oui, la maladie existe dans le corps, mais ça, c'est un fait. Mais le fait que vous avez une maladie dans votre corps ne change pas la vérité que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri. Mais la vérité que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri, ça peut changer le fait que la maladie est dans votre corps. Amen? J'ai parlé de ça, je vais le dire encore. Il y a plusieurs de vous, vous étiez là hier soir à l'école biblique victorieuse, et on parlait de cela. Mais vous savez que qu'est-ce qu'on dit avec la bouche se produit parce que c'est un principe spirituel. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si doute pas dans son cœur, mais crois que qu'est-ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est important. Hein? Et vous savez qu'il y a un pasteur, Paul Yonggi Cho, qui est le pasteur de l'église le plus énorme du monde. Il y a autour de 1 million, ou plus qu'un million de membres dans son église. Et c'est une personne quand même qui a beaucoup d'influence dans son pays, et il avait l'occasion d'aller dîner avec un neurologue une fois. Et cet neurologue était assis à côté de lui, en face de lui à la table, et le neurologue disait à Dr. Cho, le pasteur, il disait, « Tu sais, on a fait une nouvelle découverte dernièrement. Et nous avons découvert que la partie du cerveau qui contrôle la langue est reliée à tout le corps entier. C'est-à-dire qu'on peut mettre un probe ou on peut mettre quelque chose, on peut toucher cette partie du cerveau et on peut avoir une réaction dans tous les autres membres du corps. Juste la partie qui contrôle la langue est reliée à tous les autres membres du corps. Il y a des signaux qui sont partagés entre les deux. Et Dr. Cho a dit, on sort, je sais, depuis longtemps. Et le médecin a dit, non, ça se peut pas, c'est une nouvelle découverte. Oh non, non, je sais depuis longtemps. Impossible, tu peux pas savoir, on vient tout juste de découvrir. Non, je sais depuis longtemps. Mais comment ça que tu sais, hein? Qui t'a dit cela? Dr. Jacques. Dr. Jacques. C'est qui Dr. Jacques? Nouveau Testament, Jacques, hein? Langue, petit membre, contrôle tout le corps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont découvert par la science? Hein? La science a tout simplement confirmé qu'est-ce que Dieu a toujours dit. Mais il y a quelque chose, parce que quand on dit qu'est-ce que Dieu dit, on dit la même chose que Dieu dit, on confesse la parole de Dieu, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Par exemple, on va dire, merci Seigneur que j'ai la sagesse de Dieu. Merci que je suis rempli de la connaissance de ta volonté. Merci que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Merci que je suis la justice de Dieu, que mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur que tu habites en moi et plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Et plus on dit cela, Et plus on le croit dans notre cœur, plus ces choses vont changer les faits dans notre vie. On va finir ici, numéro 4. Agissez comme Dieu veut que vous agissiez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ? Pensez comme Dieu pense. Voyez ce que Dieu voit. Dites ce que Dieu dit. Amen. Et agissez comme Dieu veut que vous agissiez. Il y a un verset qu'on va terminer avec ceci, Jacques 1. Encore, c'est Dr. Jacques. Dr. Jacques ici. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Amen. Vive l'Église libre. Amen. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré. Ça c'est un clé, n'est-ce pas? Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jésus a déménagé. Il habite dans votre cœur. Il est dans votre cœur. Il est là, aujourd'hui. Il est la tête. Nous sommes le corps. Nous avons besoin de penser comme Dieu pense, de voir ce que Dieu voit, de dire qu'est-ce que Dieu dit, et puis d'agir en conséquence. Vous savez, la foi, tout simplement, c'est d'agir comme si qu'est-ce que Dieu a dit est vrai. Parce que c'est vrai. Agir comme si qu'est-ce que Dieu a dit est vrai. Et quand on pense à nous-mêmes, à qui nous sommes en Jésus, on devrait faire la même chose. Si c'est vrai que je suis une nouvelle création et je suis la justice de Dieu, je devrais agir comme la justice de Dieu. Si c'est vrai que j'ai la nature divine en moi, qui est l'amour, l'amour est patient, l'amour est... Tu as juste à lire 1 Corinthiens 13 et mettre ton nom là-dedans. Je suis patient, je suis plein de bonté, etc., etc. Tu dis, mais le fait, c'est que j'ai pas beaucoup de patience dans ma vie, mais la vérité, c'est que tu es patient dans ton âme intérieure. Déclare-le et agis en conséquence. Parce qu'en agissant, la foi a libre cours et la foi change les faits, les circonstances de ta vie. Et toutes les choses qui sont en toi, en Jésus-Christ, aujourd'hui, vont se manifester. Vous allez reconnaître et apprécier de mieux en mieux toutes les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ. Et c'est quoi le résultat? Votre foi va être efficace. Et vous allez pouvoir atteindre des multitudes des hommes, des femmes pour le royaume de Dieu. Moi, je veux que notre Église devienne efficace. Mais pour devenir efficace, il faut qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude habite en lui corporellement. Mais nous avons tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Pensons comme il pense. Voyons nous-mêmes comme il nous voit. Disons la même chose qu'il dit à propos de nous-mêmes et agissons comme si c'est vrai. Amen. On va se lever debout, on va prier ce matin. C'est un message important que nous avons besoin de saisir et d'appliquer dans notre vie. Père, merci. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, aide-nous à voir jusqu'à quel point nous sommes bénis en toi, Seigneur. Que tu nous as bénis afin de faire de nous une source de bénédiction pour les autres. Comme tu as dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton père, de ta famille, dans un pays que je te montrerai. Seigneur, je te remercie que tu nous as transportés du royaume des ténèbres. Tu nous as fait sortir de l'ancienne vie, de l'autre monde qu'on connaissait avant. nous avons pu quitter notre zone de confort. Et maintenant, tu nous montres, Seigneur, une nouvelle vision pour notre vie, afin qu'on puisse recevoir ta bénédiction et devenir une source de bénédiction pour les autres. Mais pour que ça soit une réalité, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on apprécie de mieux en mieux toutes les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ, afin que notre foi soit efficace. Et avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a peut-être une personne, deux personnes ou plus ce matin, que vous êtes ici ce matin, et si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, vous croyez qu'il est crucifié, enterré et ressuscité le troisième jour. Mais si vous êtes honnête avec vous-même et avec Dieu, vous n'avez jamais donné votre vie à lui. Vous n'avez jamais reçu la vie éternelle. C'est un cadeau, un don gratuit qu'on ne peut pas mériter, mais qu'on peut tout simplement hériter par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec tous les yeux fermés qui lèverait la main en disant, « Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. J'aimerais prier avec toi pour devenir chrétien, pour que je sois en Jésus-Christ, pour que je puisse laisser la place à Jésus de déménager dans mon cœur et de venir entrer en moi avec tout son stock, avec tous ses biens, avec toute sa nature, son caractère. Je veux faire une place pour Jésus dans mon cœur ce matin. » Est-ce qu'il y a quelqu'un juste lever la main? J'aimerais savoir. Il y a une, deux personnes. Gloire à Dieu. Trois personnes. Quatre personnes même qui ont levé la main, qui veulent faire une place pour Jésus. Moi, je veux faire quelque chose qu'on ne fait pas chaque dimanche, mais je ressens dans mon cœur qu'on devrait le faire ce matin. Si vous avez levé votre main, c'est la première fois que vous donnez votre vie à Jésus et vous avez vraiment à cœur de le faire. Jésus a dit ceci, que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand on fait une déclaration même publique. On dit qu'on n'a pas honte de montrer à tout le monde qu'on veut accepter Jésus. Il y a une puissance qui est relâchée, une bénédiction qui est accordée. Donc, je vais vous inviter juste à venir ici en avant et je vais prier avec vous ce matin. Ceux qui ont levé la main, soyez pas gênés. Pensez pas, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Oublions ça. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense de nous. Amen. Alléluia. Donc, venez. Alléluia. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur. On va faire une ligne ici. On va prier avec vous. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un pas de la foi. C'est un acte d'obéissance. Et le Seigneur va honorer cela. Moi, je veux juste poser la question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, que vous avez déjà fait cette prière dans le passé, vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, mais vous voulez comme renouveler votre engagement à lui? Toi, vous, OK? Les autres, c'est la première fois que vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander à tout le monde de prier avec vous. Et on va faire cette prière, mais faites la prière de tout votre cœur. Parce que, en priant cette prière, qu'est-ce qui va se passer? Surtout les trois ici, c'est la première fois. Le Saint-Esprit va littéralement entrer dans votre cœur. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas la foi. C'est pas un feeling. Tu peux ressentir quelque chose, ça arrive des fois, mais d'habitude non. Mais c'est pas la foi qu'on croit que Dieu écoute notre prière et que dès qu'on confesse que Jésus est notre Seigneur, et que Seigneur veut dire maître, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va le suivre, on va l'obéir. Dès qu'on fait cela, il vient par son Esprit Saint, il entre dans notre cœur, il déménage, boum, il arrive. Et il arrive pour de vrai, avec toute sa nature, son caractère, tout son stock, comme on a dit. Toutes les bénédictions spirituelles vont être les vôtres en Jésus-Christ. Maintenant même, tous les péchés que vous avez commis dans le passé vont être effacés. Ça n'existe plus. Mis dans un mer d'oubli. Dieu, quand il va vous voir, il ne va même plus voir ses péchés. Tout ce qu'il va voir, il va voir son enfant qui est né de nouveau, qui est lavé, qui est purifié, qui est net et qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, on va faire cette prière. Tout le monde, on va prier ceci. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. J'ai tellement besoin de toi, car tu es Dieu et tu es amour. Je confesse aujourd'hui avec ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi. qu'il était enterré et ressuscité le troisième jour. Et je confesse avec ma bouche qu'à partir d'aujourd'hui, je vais le servir, je vais le suivre par obéissance. Jésus, tu es mon maître. Je te donne la permission de conduire ma vie et je vais suivre.